Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 18 juin 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Prison à vie requise contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, jugé à Kigali pour terrorisme. Élection législative cruciale en Éthiopie lundi pour le choix de 547 représentants au Parlement. La pandémie de Covid-19 accélère en Afrique à contre-courant d'une tendance mondiale à la baisse. Les Iraniens sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président dans un pays en pleine crise économique. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La prison à vie a été requise jeudi contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Il est jugé depuis mi-février pour terrorisme à Kigali dans un procès qualifié de politique par la défense de cet opposant au président Paul Kagame. Le point avec Marius Munga.
Paul Rusesabagina est accusé de son soutien présumé au Front des Libérations Nationales. Groupe rebelle censé avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Même s'il n'a pas participé activement à ces attentats, la justice rwandaise le considère comme ayant joué un rôle de soutien aux combattants, a affirmé l'un des procureurs, Jean-Pierre Habarurema. Sa défense et ses proches ont estimé dans un communiqué que le gouvernement rwandais n'a présenté aucune preuve durant les 4 mois de procès, qualifié de farce destinée à le faire taire. Ils accusent également le régime rwandais de l'avoir fait enlever. Paul Rusesabagina vivait en exil depuis 1996 aux États-Unis et en Belgique, où il a obtenu la nationalité. Il a été arrêté fin août au Rwanda à la descente d'un avion qui était supposé aller au Burundi.
Le Niger a décidé de fermer un site abritant depuis 2013 quelques 20 000 réfugiés maliens à Intikane, dans la région de Taoua, proche du Mali, et théâtre d'attaques djihadistes, ont indiqué les autorités locales. Le site des réfugiés à Intikane sera fermé pour des raisons sécuritaires, a indiqué un responsable du gouvernorat de la région qui administre Intikane, une bourgade située à 50 km de la frontière dans le département de Tilla. En Suisse, un ancien chef rebelle a été condamné à 20 ans de prison pour des crimes commis pendant la guerre civile des années 90. Alio Kosia, âgé de 46 ans, a combattu pour l'ULIMO contre les forces de Charles Taylor. Il a été arrêté en 2014 en Suisse où il avait un statut de résident permanent. La Cour pénale fédérale suisse l'a reconnu coupable de 21 chefs d'accusation. Kosia a nié ces accusations, soulignant qu'il était mineur lorsqu'il s'est engagé dans le conflit. Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées et 13 grièvement blessées dans l'explosion d'un camion citerne à Lagos, ont indiqué ce vendredi les services de secours. Le camion citerne chargé de carburant s'est renversé sur la route et a explosé jeudi soir dans le quartier central d'Ikeja, provoquant un incendie qui s'est propagé aux bâtiments et aux voitures alentour. Les services de secours mobilisés sur les lieux ont pu éteindre l'incendie au milieu de la nuit. Élection législative cruciale en Éthiopie lundi. Les électeurs doivent choisir 547 représentants au Parlement dans un pays troublé par des violences, notamment dans la région du Tigré. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les 37 millions d'électeurs à participer à cette journée qualifiée d'historique. Les électeurs de 547 circonscriptions du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique vont choisir leurs parlementaires dans un contexte de crise. Le vote ne pourra pas se tenir dans près d'un cinquième des circonscriptions et a été reporté au 6 septembre dans 64 d'entre elles. Dans les 38 circonscriptions du Tigré où la guerre fait rage, aucune date n'a été fixée pour le scrutin. Dans certaines régions, le report est dû à des insurrections armées et des violences intercommunautaires qui se sont aggravées sous le mandat du Premier ministre Abiy Ahmed. Dans d'autres, c'est en raison de difficultés logistiques comme l'impression et la distribution de bulletins ou encore le manque de formation du personnel électoral. À son arrivée au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. D'abord prévues en août 2020, elles ont déjà été reportées à deux reprises.
Au moins 4 personnes sont mortes, dont un enfant et une femme enceinte, après le naufrage d'un bateau de migrants aux Canaries, au large du nord-ouest de l'Afrique. Le drame s'est déroulé jeudi soir près de l'île de Lanzarote. 49 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, a indiqué Enrique Espinoza, chef des services de secours de l'île. 4 personnes sont recherchées, 20 hommes, 17 femmes et 4 enfants, dont 2 bébés ont été sauvés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, tout juste rentré de la tournée européenne de Joe Biden, retourne la semaine prochaine en Europe auprès des alliés des États-Unis, avec notamment sa première visite à Paris où il rencontrera le président français Emmanuel Macron. Il ira à Berlin pour participer mercredi à la 2e conférence internationale sur la paix en Libye. Monsieur Blinken va rencontrer la chancelière Angela Merkel, elle-même attendue mi-juillet à la Maison-Blanche pour la première visite d'un dirigeant européen auprès du président Biden. La pandémie de Covid-19 a accéléré en Afrique pour la 5e semaine consécutive, à contre-courant d'une tendance mondiale à la baisse depuis début mai. Le point avec Rosine Munezero.
Cette semaine, le continent a connu la plus forte accélération de la contagion. La Namibie est première parmi les pays qui ont enregistré plus de 1000 cas par jour devant la Zambie. L'Afrique du Sud va déployer du personnel militaire médical dans la province de Gauteng pour aider les professionnels de santé à faire face à une recrudescence des cas. Le président Cyril Ramaphosa a prolongé mardi le couvre-feu d'une heure et a imposé un contrôle plus strict de la vente d'alcool face à une troisième vague. Ailleurs, la pandémie a également accéléré au Moyen-Orient et en Amérique latine. Elle a toutefois diminué en Asie, aux États-Unis et en Europe. En Espagne, le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir du 26 juin. Par contre, Moscou est confronté à une flambée record du variant Delta, a annoncé le maire de la capitale russe. La ville de 12 à 13 millions d'habitants a enregistré plus de 9000 nouveaux cas en 24 heures. Un record depuis le début de la pandémie.
L'Assemblée générale de l'ONU a entériné l'octroi à Antonio Guterres d'un deuxième mandat à la tête de l'organisation pour 2022-2026. Il a appelé à établir un monde qui tire des leçons de la pandémie de Covid-19. Notre plus grand défi, qui est aussi notre plus grande opportunité, est d'utiliser cette crise pour renverser la situation, pivoter vers un monde qui montre le chemin via une coopération internationale accrue et efficace, a-t-il dit devant les 193 pays membres. En Iran, les électeurs choisissent ce vendredi un nouveau président. Cette élection devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, alors que le pays est frappé par une crise économique et sociale. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le guide suprême Ali Khamenei a ouvert le scrutin en votant tôt ce matin. Il a appelé les quelques 5 à 9 millions d'Iraniens en âge de voter à accomplir leur devoir civique le plus tôt possible. Les autorités ont décidé d'allonger la période d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à minuit avec une extension possible jusqu'à 2 heures du matin samedi. Les résultats définitifs sont attendus samedi à la mi-journée. Chef de l'autorité judiciaire, Ebrahim Raisi, âgé de 60 ans, fait figure d'archi-favori faute de concurrent à sa mesure après la disqualification de ses principaux adversaires politiques. La participation est en fait l'un des principaux enjeux. Selon la télévision nationale iranienne, à la mi-journée, seulement 5% des 5 à 9 millions d'inscrits avaient voté. La priorité du prochain président devrait être le redressement de l'économie Tous les 7 candidats s'accordent pour dire que cela doit nécessairement passer par la levée des sanctions américaines imposées par l'administration Trump.
10 Palestiniens ont été arrêtés après des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Un millier de Palestiniens se sont rassemblés sur l'esplanade après la prière du vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Jean-Roger Bion.
Le Comité international olympique va faire planter 355 000 arbres au Mali et au Sénégal pour participer au combat contre la désertification du Sahel et tenir ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le CIO avait annoncé en mai son intention de créer une forêt olympique. Il en a fourni les détails. 355 000 arbres d'essence plantés dans environ 90 villages du Mali et du Sénégal et représentant une superficie de 2120 hectares. Les frontières terrestres du Niger fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du nouveau coronavirus sont rouvertes depuis jeudi. Au départ du Niger, les voyageurs doivent aussi présenter un bulletin de test négatif de moins de 5 jours. Le coût du test pour les voyageurs par la route est fixé à 5 000 francs CFA contre 25 000 francs CFA pour ceux qui prennent l'avion, comme dans tous les pays de la CEDEAO. L'Organisation maritime internationale a adopté jeudi plusieurs mesures en matière de lutte contre la pollution causée par l'industrie du transport maritime. Au terme d'une semaine de négociations, l'organisation spécialisée de l'ONU s'est engagée à garantir une réduction de 40% de l'intensité carbone de l'industrie qu'elle encadre d'ici 2030 par rapport à 2008. Les discussions sur un fonds dédié à la recherche et développement porté par les industriels ainsi que des mesures contre les émissions de carbone noir, fléau pour l'Arctique, ont été repoussées.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Demi-finale aller de la Ligue des champions CAF demain samedi. L'Espérance de Tunis reçoit Al Ahly à Tunis. Ce sera le premier match avec du public depuis le début de la pandémie en mars 2020. 5 000 personnes ont été autorisées à entrer au stade de Rades qui compte 60 000 places. Elles devront porter un masque et présenter un test PCR négatif. Le club égyptien Al Ahly, 9 fois vainqueur en Ligue des champions CAF, a éliminé fin mai le Mamelodi Sundowns FC en 8e de finale. L'Espérance de Tunis a arraché sa qualification au tir au but face aux Algériens du CR Belouizdad. Dans l'autre demi-finale, le Wydad de Casablanca reçoit Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud. Des nouvelles de l'Euro, la Suède a dominé la Slovaquie 1-0 à Saint-Pétersbourg, ce qui laisse intactes les chances des deux équipes de rallier les 8e de finale dans le groupe E. La Suède, désormais en ballottage favorable, suivra avec attention l'opposition entre l'Espagne et la Pologne prévue demain à Séville. Hier à Copenhague, la Belgique a assuré sa place en 8e de finale 2-1, imitée par les Pays-Bas contre l'Autriche 2-0. L'Ukraine a résisté au retour de la Macédoine du Nord 2-1 pour se relancer vers les 8e de finale à suivre ce soir, Angleterre-Écosse. Athlétisme, le Sud-Africain Louva Manyonga, vice-champion olympique en titre du saut en longueur, a été suspendu 4 ans pour manquement à ses obligations de localisation antidopage. L'unité d'intégrité de l'athlétisme lui reproche d'avoir manqué un contrôle antidopage en novembre 2019 et d'avoir été imprécis dans sa localisation par 2 fois en 2020. Les athlètes sont soumis à des obligations de localisation, adresse, entraînement, compétition pour des contrôles inopinés. 3 manquements à ses obligations en moins d'un an sont passibles d'une sanction. Manyonga, 30 ans, se voit fermer les portes des Jeux olympiques de Tokyo. Dernière chance pour lui, faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Playoff NBA, Milwaukee pousse Brooklyn au 7e match. Bagasikura.
Oui, Milwaukee, porté par Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton, auteur de 68 points combinés, a maîtrisé Brooklyn du début à la fin, 104 à 89. Cette fois, Kevin Durant n'a pas fait de miracle. 2 jours après son exceptionnel récital, 49 points à 70% de réussite au tir, l'ailier star a tout de même réussi à planter 32 points. Mais les Bucks ont fait de sorte de maintenir leur domination jusqu'au bout. Le Greek Freak entendait le monstre grec surnom donné à Ziani, a fini avec 30 points et 17 rebonds et son coéquipier Chris Middleton en a inscrit 38. Les deux équipes sont à égalité 3-3. Un septième match décisif attend Bucks et Nets ce samedi pour accéder en finale de Conférence Est.
Merci Bagassi.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Nigeria, nouvelle attaque jeudi contre une école publique de l'état de Kebbi dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont enlevé des élèves de l'internat de la ville de Yori. Un policier a été tué lors d'un échange de tirs. Le point avec notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba.
On ne sait pas encore combien d'élèves ont été enlevés, mais des hommes armés ont envahi le collège du gouvernement fédéral de Yori jeudi. Les assaillants ont maîtrisé l'unité de police qui gardait l'école. Ils ont ensuite kidnappé les élèves et les enseignants. Réaction des élèves de l'école Maria Boys College d'Abuja.
Pour Boko Haram, l'éducation occidentale n'est pas bonne. C'est pour cette raison qu'ils attaquent des écoles pour enlever des enfants. Je ne pense pas que cela est une bonne chose. Le gouvernement doit renforcer les mesures de sécurité.
Je demande au gouvernement de recruter plus de personnel de sécurité pour protéger les enfants. Aujourd'hui, au Nigeria, les enfants sont enlevés dans les écoles par les éléments de Boko Haram. Et ça, c'est pas bon.
Les autorités locales effectuent actuellement un contrôle pour déterminer le nombre exact de personnes portées disparues. Dans le pays, c'est encore l'indignation, comme le témoigne le père Malaki Made West, principal de l'école Maria Boys College d'Abuja.
La situation est alarmante et la question de la sécurité de toute nation doit être priorité, surtout pour les enfants et les femmes en grossesse. Mais c'est malheureux de voir que c'est le contraire qui se produit dans notre situation aujourd'hui.
Le Nigeria a connu une vague d'enlèvements dans les écoles ces derniers mois. Dans les régions du nord-est et du nord-ouest, des centaines d'écoles ont fermé pour raisons de sécurité. Ce nouvel incident survient après qu'un autre groupe d'hommes armés a enlevé quatre ressortissants chinois près de Lagos dans le sud-ouest du pays. Plus de 130 enfants enlevés dans une autre école coranique dans l'état de Niger le mois dernier sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Les autorités de l'État refusent tout versement du rançon pour leur libération. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Cameroun a déployé cette semaine 300 soldats supplémentaires à Bouy, un département de la province du Nord-Ouest qui est devenu un bastion des séparatistes selon l'armée. Les troupes effectuent des recherches de maison en maison pour trouver des armes et détruisent des engins explosifs improvisés et des camps de rebelles. Mais les civils accusent les deux parties d'abus. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Jacques Aristide.
Pour l'armée camerounaise, Bouy est le théâtre d'atrocités commises par les séparatistes anglophones. Environ 35 engins explosifs improvisés ont été détruits par les militaires au cours des deux dernières semaines. Mais toujours d'après elle, ceux qui n'ont pas été retrouvés ont saccagé des routes et des véhicules. Les troupes envoyées pour établir l'ordre ont tué 7 combattants, dont 3 généraux séparatistes autoproclamés, 4 soldats sont morts. Le général Valenka est le commandant des troupes gouvernementales qui combattent les séparatistes.
Le travail n'est pas terminé. Il y a encore des camps de terroristes à nettoyer. Il y a encore des pseudo-généraux à neutraliser. C'est une mission qui nous a été prescrite par le chef d'État, commandant en chef des forces armées, dire à la population qu'elle doit collaborer avec les personnels des forces de défense et de sécurité pour mieux les sécuriser.
Le commandant Inca demande également aux civils d'aider les militaires en donnant des informations sur les suspects et en identifiant leurs cachettes. L'église presbytérienne de Bouy indique que des dizaines de ses fidèles, en particulier des conducteurs de mototaxis, ont fui les combats. Christophe Tata, 40 ans, raconte qu'il a trouvé refuge dans la ville francophone de Bafoussam. Il dit que les forces gouvernementales ont saisi sa moto à Koumbo, la capitale de Bouy.
Quand les militaires arrivent, ils entrent par effraction dans les maisons, puis ils pillent. Ils prennent les téléphones, les appareils de musique et tout autre gadget électronique dont ils ont besoin. Quand ils voient une moto, ils ne font que la saisir et ne la rendent pas. Alors, nous lançons un appel. Le gouvernement doit voir comment mettre un terme à cette guerre.
Christophe Tata ajoute que les civils, accusés de collaborer avec l'armée, sont ciblés et torturés par des combattants séparatistes. Selon lui, 6 civils ont été tués récemment à Koumbo dans l'explosion d'un engin artisanal. Les séparatistes veulent créer l'Ambazonie, un État anglophone indépendant. Capo Daniel est un des dirigeants autoproclamés des forces de défense de l'Ambazonie, un groupe rebelle basé dans les régions occidentales du Cameroun. Il revendique la responsabilité des engins piégés, mais affirme que les combattants ne ciblent que les militaires. Il se confie via l'application de messagerie WhatsApp.
Les civils qui ont été touchés par ces engins explosifs étaient des civils qui étaient transportés dans des véhicules militaires camerounais. Ces véhicules militaires sont des cibles légitimes de nos forces au sol. Nous continuerons de cibler et tous les civils qui se laisseront transporter dans des véhicules blindés de l'armée seront définitivement la cible des tirs.
Capo Daniel accuse l'armée d'avoir commis la plupart des atrocités. Mais le commandant Nka affirme, lui, que les militaires font preuve de professionnalisme et respectent les droits des citoyens. Deben Tchofo est le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun. Il dit que les troupes déployées à Bouy ont reçu l'ordre de fouiller les maisons et de saisir des armes illégales qui seraient en grande circulation.
Il y a des prophètes de malheur qui veulent s'aimer le chaos dans notre région en déstabilisant la population du Nord-Ouest. Nous avons ordonné aux autorités administratives et aux forces de sécurité de récupérer toutes ces armes et munitions qui circulent dans la région. Le processus est en cours. Nous allons nous assurer que tous ceux qui détiennent encore des armes et des munitions dans la région soient tenus responsables et traduits en justice.
L'ONU affirme que 3000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit dans les régions anglophones il y a environ 4 ans, alors que plus de 50 000 autres ont fui vers les villes francophones du Cameroun, mais aussi vers le Nigeria voisin.
Amiri et Mohamed se sont rencontrés dans un camp de réfugiés du Burkina Faso. Après avoir passé une grande partie de leur jeunesse à fuir la violence islamiste et à lutter contre les traumatismes, ils découvrent la danse et rejoignent un programme fondé par un danseur burkinabé de renommée internationale qui forme des jeunes marginalisés. Il affirme que cet art sert d'outil de réconciliation et de guérison. Un reportage de Claire McDougall depuis Ouagadougou. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Amiri Agabdoulaye et Mohamed Oud Najim s'efforcent de maîtriser une nouvelle routine. Pendant la majeure partie de leur vie, ils ont lutté pour survivre dans un camp de réfugiés près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ils se trouvent maintenant dans la capitale Ouagadougou.
Et la danse nous a fait oublier beaucoup de choses qu'on a traversées. Beaucoup de choses, sincèrement dit.
Le programme triennal du chorégraphe burkinabé Salia Sanou, basé en France, vise à aider les jeunes marginalisés et les réfugiés.
Le centre se donne comme mission d'aller vers les publics, d'aller vers les jeunes en situation difficile, d'aller vers les populations, notamment les réfugiés, pour faire de la médiation culturelle, de la médiation artistique.
Selon Nadim, la danse les aide à s'exprimer et à raconter leur histoire.
Lorsque nous étions au camp de Mentao, nous étions enfermés et je n'étais pas heureux d'être en vie. J'essayais de vivre. C'était fini pour moi. Ma vie a changé avec la danse et je suis plus à l'aise qu'avant et j'ai surmonté beaucoup de choses.
Le professeur de danse Idrissa Kafando forme le groupe de 25 élèves dont beaucoup se remettent d'un traumatisme.
C'est une école et cette école permet d'être éduquée. Donc on éduque tout ce qui vient ici, tout ce qui vient ici plus tôt.
Les deux jeunes Maliens espèrent que cette formation les aidera à se faire connaître en tant que danseurs et pas seulement comme faisant partie des 23 000 réfugiés maliens vivant au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Chambre des représentants des États-Unis a abrogé une loi de près de deux décennies donnant au président américain des pouvoirs étendus pour mener la guerre contre le terrorisme. Contrôlée par les démocrates, la Chambre a approuvé la révocation de cette loi par 268 voix contre 161. Le point avec la correspondante de la Voix de l'Amérique au Congrès, Catherine Gibson. Le récit est de Jean-Roger Bion.
Cela fait 20 ans que les États-Unis sont entrés en guerre en Irak. Et un pas vient d'être franchi jeudi dans le processus d'abrogation du feu vert du Congrès qui a permis au président George W. Bush à l'époque de renverser Saddam Hussein. Depuis cette fameuse autorisation, trois présidents américains des deux partis ont utilisé cette loi pour s'engager dans d'autres conflits. Barbara Lee, députée démocrate.
À ce jour, notre guerre sans fin continue de coûter des milliards de dollars et des milliers de vies et va bien au-delà de tout ce que le Congrès avait prévu.
Selon la Constitution américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, mais à la suite des attentats du 11 septembre, les législateurs ont donné au président de larges pouvoirs pour aller en guerre. Cette autorisation d'utilisation de la force militaire, Authorization for Use of Military Force, affaiblit finalement l'armée américaine, concède ce vétéran de la guerre en Irak. Ruben Gallego, un autre parlementaire démocrate.
Tant que cette AUMF sera d'actualité, nous ne cesserons au Congrès de battre en brèche notre devoir moral et constitutionnel, qui est de débattre et de décider quand envoyer des soldats américains dans des missions périlleuses.
Le président Donald Trump a utilisé la loi de 2002 pour justifier la frappe aérienne de 2020 qui a mis fin à la vie du général iranien Qassem Soleimani. Un résultat qui, selon les républicains, suffit à prouver le caractère nécessaire de cette mesure. Michael McCullough est un député républicain.
Je partage également le désir de révoquer les AUMF de 2002 ainsi que l'AUMF de 2001. Mais cela doit faire partie d'un processus sérieux pour mettre en place des directives claires et solides contre les terroristes qui continuent à comploter pour tuer les Américains dans le pays et à l'étranger.
Les démocrates disposent d'une majorité très étroite au Sénat où leur chef a promis d'organiser à son tour un vote sur cette mesure cette année. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat.
La guerre en Irak est terminée depuis près d'une décennie. Une autorisation accordée en 2002 n'est plus nécessaire en 2021.
Mais il devra faire face à l'opposition des républicains qui soutiennent que le processus a été précipité. Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat.
Les graves menaces posées par l'État islamique, Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes sont plus réelles qu'elles ne l'ont jamais été. Et abroger les AUMF sans se mettre d'accord sur un ensemble de nouvelles mesures à l'avance ne fera qu'accroître l'incertitude quant à ce que nous allons faire à leur sujet.
La Maison-Blanche soutient l'abrogation de cette loi. Le président Joe Biden est déterminé à travailler avec le Congrès pour s'assurer que les autorisations obsolètes pour l'usage de la force militaire sont remplacées par un cadre étroit et spécifique adapté, a écrit son administration.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon week-end. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.